Europe 1.
Aujourd'hui, près de la moitié des violences physiques ou sexuelles sont commises au sein de la famille. Des femmes, la plupart du temps, des enfants et des hommes aussi parfois, ont subi l'impensable de la part de leurs proches. Certains ont eu la chance de s'en sortir et le courage de se relever. Pour les victimes qui n'ont pas survécu, ce sont ceux qui les aimaient qui doivent maintenant se reconstruire. Comment vivre après le meurtre d'un membre de la famille? Comment surmonter la culpabilité et le sentiment d'impuissance? Et quelles sont les conséquences sur les victimes pour leur vie future? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Carole. Sa vie a basculé le jour où elle a appris le décès de ses deux enfants. Elle les avait laissés en garde à son ex-mari. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les bienvenus. Carole, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va, merci.
Merci de m'accueillir chez vous, ici. Alors je vous vois avec le sourire aujourd'hui. Oui. Il est revenu ce sourire.
Oui.
Vous dites aujourd'hui que vous avez réappris à vivre parce que le 31 décembre 1995, votre ex-mari avait pris vos deux enfants en vacances.
Voilà, oui.
Et donc il devait vous les ramener.
Oui, oui. Donc le 31.
Le 31.
Voilà. Et le matin, il m'a appelé pour me dire qu'il ne me les ramenait pas, parce que les routes étaient enneigées, tout ça et tout. Et au 1er janvier 96, mon père a sonné à la porte et il m'a dit « Ton ex a fait le con. Hélène est morte, Christophe, on ne sait pas. » Il a pris le fusil, il leur a tiré dessus.
Quel âge avaient vos enfants?
Christophe, 12 ans et demi, et Hélène, 11 ans et demi.
Il tire sur ses deux enfants, donc?
Oui.
À l'aide d'une vanne dans l'oreille.
Et ensuite, il retourne l'arme contre lui. Et malgré les 3 balles qu'il s'est tirées dans la tête, eh ben, il est toujours vivant et il s'en est bien sorti.
Cet homme, il aimait vous humilier. Hein,
oui.
Mais jamais vous n'auriez pensé qu'il était capable de faire du mal à vos enfants.
Non, non. Moi, je pensais qu'il me ferait du mal à moi. Mais j'ai jamais cru qui s'attaquerait aux enfants comme ça. Et c'est après le drame qu'en fin de compte, j'ai compris que les enfants étaient une barrière entre lui et moi. Donc il a éliminé la barrière, pensant me retrouver. Mais ça, je m'en doutais pas à ce moment-là.
Vous avez retrouvé une joie de vivre. Et on va remonter le temps et voir comment vous avez... réussi à surmonter ce qui peut paraître totalement insurmontable.
Oui.
Hein? Ok.
Ok.
Allez. Cet homme, vous faites sa connaissance quand?
Quand j'étais toute petite, j'avais 10 ans. Lui, 11, et je suis tombée amoureuse de lui tout de suite. Pour moi, c'était avec lui que j'allais me marier.
Alors, vous vous êtes mariée à quel âge?
À 20 ans. Moi, j'étais persuadée que de toute façon, si je me mariais pas avec lui, je me marierais jamais. Parce que j'étais persuadée que je ne plaisais à personne. Et ça, il a su en jouer de là-dessus après, pendant notre mariage. De ce sentiment que j'ai toujours eu...
Manque de confiance en
oui,
vous.
Oui, complet, oui, complètement, oui.
Dès que vous vous mariez, les premiers mois, vous le percevez comment?
Lui était très ancré sur le « quand dira-t-on », l'image qu'on laisse à l'extérieur de soi, l'image qu'on laisse vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son frère qui vit à côté de chez nous. Et donc, lui voulait que je sois la femme parfaite pour pouvoir, entre guillemets, l'exposer au monde extérieur. Et pour lui, c'était humiliant quand j'avais certains défauts à l'extérieur parce que je n'étais pas la femme parfaite qu'il désirait.
Il a entretenu ce manque de confiance, hein, que vous aviez en vous. Humiliée quotidiennement, Carole aura malgré tout vécu 15 années aux côtés de cet homme et donné naissance à ses deux enfants, Christophe et Hélène. Mais son mari était devenu chaque jour un peu plus difficile à vivre et développait entre autres une véritable obsession pour l'argent.
Toujours la peur d'en manquer. Et de toute
toujours
façon,
la peur d'en manquer.
Et une fois, il m'avait dit, de toute façon, tant que je n'aurai pas le million de francs de côté, je n'arrêterai pas.
Il le repassait, hein, son argent.
Oui, oui. Ça, je l'ai appris par un ex-beau-frère, que quand il allait voir sa sœur, il le voyait, lui, en train de repasser ses billets sur la planche à repasser de sa maman. Et ça, à l'époque, ça l'avait beaucoup marqué. Il y a beaucoup de choses qui prennent du sens après le drame.
Avec cette attitude, à partir de quel moment vous sentez que ça ne va plus trop
Déjà, les humiliations en public, que j'étais jamais assez bien, tout ça et tout. Bon, bah, à force, je commençais à m'éloigner de lui. Et une fois, ma mère m'a appelée en me disant que Christophe menaçait de fuguer parce qu'il en avait marre de son père. Donc là, ça commence à me faire réfléchir aussi. Donc j'ai commencé à vouloir divorcer une première fois en 94. Et lui ne voulait pas divorcer. Il m'a dit que si je partais, il était capable de faire comme Roman. Donc à cette époque-là, on était en pleine affaire Roman. Donc ce monsieur qui se faisait passer pour un médecin de l'OMS, qui a tué toute sa famille. Et il termine par « je supporterai pas de vous voir partir et je préférerais vous tuer que de vous laisser partir ». Et moi, je ne l'ai pas pris comme une menace, ça, je l'ai pris un peu comme une preuve d'amour. Je me suis dit « waouh, c'est qui tient vraiment à nous ». Et c'est là que je me suis dit « bon, allez, je lui donne encore une seconde chance ». Je l'aimais depuis l'âge de 10 ans.
Vous l'aimiez fort, hein, cet homme.
Ouais, énormément, ouais. Et puis, c'était pas dans ma mentalité de divorcer, parce que je m'étais mariée avec lui. Pour moi, c'était pour la vie, quoi. Et ça a tenu 6 mois, et au bout de 6 mois, waouh, ça a été l'aigle qui a foncé sur sa proie, puisqu'il m'a enlevé la batterie de la voiture, il a coupé la carte bleue, il m'a enlevé le chéquier, il ouvrait tous mes courriers avant de me les donner, et il n'a jamais levé la main sur moi, sauf 3-4 jours avant que je parte. Et là, j'ai vu rouge, je lui ai dit « vas-y, cogne ». Mais je te préviens, toi aussi t'iras à l'hôpital, comme moi. Moi je vais aller à l'hosto, mais toi aussi, parce que ce coup-ci je ne me laisserai pas faire. Et un matin, Hélène, elle me dit « papa a mis un coup de poing dans le ventre à Christophe ». Et c'est là où je me suis dit « waouh, il est vraiment temps que tu foutes le camp ». Parce que là, il est en train de passer à la vitesse supérieure.
Pendant 8 mois, en secret, Carole organise sa fuite et celle de ses enfants. Elle économise peu à peu et envoie l'argent chez ses parents dans le but de s'installer près d'eux, à Lure, en Franche-Comté. Un matin de juin 1995, alors que son mari est parti travailler, Carole réveille les petits pour le grand départ. Elle laisse une lettre à son époux, lui avouant tout ce qui lui pèse depuis tant d'années. Après 250 km de route, elle pose ses valises dans un petit 3 pièces HLM. Pour Carole, Christophe et Hélène, c'est une nouvelle vie qui commence.
Je me souviendrai toujours de cette première nuit où on est tous les trois dans le salon, couchés sur des matelas par terre, à faire plein de projets, à rire, à s'exclamer, la petite chienne qui vient nous voir. Et puis on n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là parce que tellement on était heureux tous les trois, quoi. Et c'est pour ça que je n'ai jamais, malgré le drame, j'ai jamais regretté d'être partie. Pourquoi ? Parce que les enfants le voulaient autant que moi, ce divorce. Et ça, c'était très important.
Est-ce que votre mari, est-ce qu'il vous cherche ?
Pendant, je dirais, 1 mois et demi, j'ai pas de nouvelles de personne.
Vous vous renseignez quand même s'il cherche ou pas ?
Non, je suis trop à mon bonheur, moi, pour...
D'accord.
Pour moi, c'est ma vie passée. Je m'en occupe absolument plus. C'est terminé. Je m'occupe vraiment du présent, de notre présent, quoi.
Devant.
Ah oui, franchement, ça a été, mais alors, j'ai vécu 6 mois, mais d'un bonheur total. Total.
La procédure de divorce est lancée. Carole revoit son mari pour la première fois en septembre. Contrairement à ce qu'elle redoutait, celui-ci semble finalement accepter la séparation. Ils conviennent même ensemble d'une organisation pour la garde des enfants. Un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, ils seront avec leur père. Mais les fêtes de fin d'année approchent et ils demandent une faveur à Carole.
Ils les voulaient pour Noël, pour leur cadeau de Noël, et puis que Noël était une belle fête, enfin qu'ils ne voulaient pas la passer tout seul, tout ça et tout. Donc je lui dis, oui, bah, après tout, pourquoi pas, puis nous on fêtera Noël le jour de l'an, et puis c'est tout, quoi. Et je me souviendrai toujours, on l'attendait, et Christophe était assis sur le rebord du canapé, et il disait, oh, je ne veux pas y aller, je n'ai pas envie, je vais m'ennuyer, je ne vais pas être bien. Et Hélène qui lui dit, mais attends Christophe, j'ai lu ton horoscope, il t'annonce que des belles choses, donc tu verras, tu passeras une bonne semaine.
En tout cas, le jour de ce départ, c'est la dernière fois que vous voyez vos enfants.
Oui, vivants.
Le 1er janvier 1996, à 7h du matin, Carole est réveillée par son père venu lui annoncer la terrible nouvelle. Son mari a tiré sur les enfants dans leur sommeil. Hélène est décédée. Christophe est entre la vie et la mort.
Les mots rentrent, mais ils ne s'impriment pas. C'est comme si je m'étais arrêtée de réfléchir, de respirer, de je ne sais pas. Ça ne s'imprime pas. Et puis, c'est quand j'appelle mon amie Judith, je lui hurle dans le téléphone, il me les a tués. Et elle comprend pas, et c'est là que je me mets à pleurer, quoi, parce que là ça s'imprime, ça y est. Mais il y a toujours cet espoir de retrouver Christophe. Donc là on se rend à l'hôpital de Genève et on nous fait attendre. Et les médecins daignent enfin arriver. Ils nous disent de but en blanc que pour Christophe il n'y a plus rien à faire. Que son cerveau est détruit, qu'ils ont tout fait pour le sauver, mais qu'ils n'ont rien pu faire. Et donc, on m'amène vers Christophe. Et là, première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Ah, qu'il est beau, mon fils !» Et puis, j'ai l'impression qu'il dort. Et puis, vraiment un sentiment de repos, de bien-être. Et en plus, il est encore tout chaud, donc je peux lui dire au revoir. Et je lui dis au revoir, je lui dis « Ne te fais pas de soucis maintenant, tu peux aller rejoindre ta sœur, tu peux partir maintenant. Je suis là, n'aie pas peur. » Et donc, j'ai dit au revoir à Christophe, mais je n'ai pas pu dire au revoir à Hélène.
On ne vous a pas laissé voir Hélène tout de suite.
Hein. Non. Et donc, on s'en va. Et on arrive sur le parking. Et au moment de monter dans la voiture, vous savez, il y a ces grands trucs en fer qui marquent les emplacements de parking. Et là, je m'accroche à cette barre et je me mets à hurler. Et là, j'hurle de tout. J'expédie tout dehors, quoi. Toute cette rage, cette impuissance, tout. Et ce cri... J'ai l'impression que je n'ai jamais plus m'arrêter de crier, quoi, parce que si je ne savais pas ce qu'était l'enfer, là, ça y est, je sais ce que c'est maintenant.
Après avoir tiré sur ses enfants, le mari de Carole a retourné l'arme contre lui. Mais il survit à cette tentative de suicide, ne parvenant qu'à se blesser à l'œil et à la mâchoire. Carole apprend qu'il est en vie, mais elle refuse de céder à la haine ou au désir de vengeance.
Du moment où j'ai appris qu'il avait assassiné mes enfants, son visage s'est complètement effacé de ma mémoire.
Ah oui ?
Ah oui, pour moi, il n'avait plus de visage, c'était fini. Et je ne voulais pas ressentir cette haine parce que je me suis dit, si je ressens cette haine, elle va me consumer de l'intérieur et je vais me détruire. Et quelque part, il aura gagné. Il m'avait déjà enlevé ce que j'avais de plus cher. Et j'avais pas envie qu'il gagne sur toute la ligne, quoi.
Vous avez décidé à ce moment-là de vivre, c'est ce que vous...
Oui. J'ai pris la décision tout de suite. C'est soit j'arrêtais, soit je continuais. Et en fin de compte, j'ai décidé de continuer. Pourquoi ? Parce que mes enfants aimaient tellement la vie et on leur avait ôté. Et moi, j'avais la chance d'être en vie. Et donc, rien que pour eux, par respect, par amour pour eux, je me suis dit, t'as pas le droit de gâcher la tienne. Il faut que tu continues.
8 mois après la mort de ses enfants, Carole rencontre Jean-Pierre, l'homme qui, depuis, partage sa vie.
Santé, voilà.
Une rencontre qui l'a aidé à ne pas sombrer, mais que le couple a d'abord eu du mal à faire accepter à son entourage.
L'image que pouvait dégager Carole dans la société, ça a été difficile. Même moi, quand j'ai rencontré Carole, quelle communication je pouvais mettre en place par rapport à mon ami. Est-ce que je devais annoncer son histoire, la cacher, etc. Ça a été très difficile. Et la petite histoire, c'est quand je l'ai annoncé à ma famille, ma sœur qui me dit « j'espère que tu ne me ramènes pas le malheur dans la famille ». Alors là, ça m'a complètement scotché. Ça a été dur pour moi. Cette réflexion a été très, très dure pour moi. C'était tabou. Pour moi, en tout cas, c'est la façon dont je l'ai ressenti. On ne parle pas, de ces choses-là. Voilà.
On ne parle pas de ces choses-là.
Non.
La société n'accepte pas qu'une femme qui a perdu ses 2 enfants puisse continuer à vivre avec le sourire. Les gens ne comprenaient pas le comportement de Carole parce que la plupart l'auraient vu un peu plus triste. Ça serait été pour eux
plus digne. 8 mois après le départ de Christophe et d'Hélène, vous comprenez que certaines personnes puissent aient du mal à comprendre.
Ah oui, ça je le comprends tout à fait, mais à l'époque, je vais être franche avec vous, je m'en fiche complètement.
Ouais.
Parce que j'estime que c'est ma vie, mes enfants sont partis, et là, plus personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire. Pour un homme que j'ai énormément aimé, tout ce que j'ai gagné, c'est la mort de mes enfants.
Ouais.
Alors maintenant, je m'en fiche complètement de ce que les autres pensent. J'irai que quelque part, c'est pas mon problème du tout.
L'ex-mari de Carole comparaît devant la cour d'assises de l'Ain 2 ans et demi après le drame. Tout au long de l'instruction, il s'est montré extrêmement froid, envoyant même à Carole, depuis sa prison, un courrier pour le moins inattendu.
Donc je ne vous explique pas dans l'état où j'étais quand j'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Et je suis restée quasiment une journée à me demander si j'allais l'ouvrir ou pas, cette enveloppe. Et après, je me suis dit, non, allez, t'es une idiote, tu l'ouvres, autant savoir tout de suite exactement ce qui t'a mis. Et en fin de compte, c'était simplement la facture d'hôpital de Christophe qu'il m'avait envoyée. Et il me l'envoie pour que je la paye.
C'est encore un geste
oui.
Hors norme, on va dire.
Oui. Et ça m'a mise très en colère.
Bien sûr. Vous y allez dans quel état d'esprit à ce procès?
Je l'attendais avec impatience, ce procès, mais en même temps, j'avais peu peur de sa réaction, de ce qu'il allait dire sur la nuit du drame, de comment il en était venu à ça.
Justement, quelle est la version qu'il livre au juré?
S'il a fait ça, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas partir, il l'aurait pas fait. Les enfants allaient être malheureux avec moi, parce que lui avait été malheureux quand sa mère a quitté son père. Et qu'il ne voulait pas que ses propres enfants connaissent la peine que lui avait connue quand sa mère avait quitté son père.
D'accord.
Et que donc c'est pour ça qu'il les avait tués. Et ça, je suis complètement abasourdie parce que je me dis qu'en fin de compte, alors qu'il a déjà passé quasiment 1 an en prison, rien n'a changé et il ne changera jamais.
Mmh. Est-ce qu'au procès, il savait que vous aviez rencontré un autre homme?
Oui.
Ouais.
Ouais. Et c'est pour ça qu'après, il s'est approché de Jean-Pierre, il lui a soufflé « Toi, je t'aurai ». Et les gendarmes l'ont tout de suite repris. Et je pense que ça, il ne le supporte pas.
Le père infanticide a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre sans période de sûreté. En 1998, Carole s'est remariée avec Jean-Pierre, se tournant résolument vers l'avenir. Mais avec cette difficile équation, rompre avec son passé douloureux, sans bien sûr oublier ses enfants.
J'adore cette photo-là.
Moi, j'allais passer.
C'est celle-là que je préfère, parce que ils étaient comme ça dans la vie, très proches, très complices, et on les sent qui rient, qui... Voilà, ils sont... On les sent complices, là, et j'adore cette photo. Couchés dans le jardin derrière.
Heureux, tranquille.
Ouais. pour moi, les photos, ben, je revois mes enfants vivants, heureux, souriants. Et c'est ça que je veux garder, justement. Ouais. Je veux pas, donc le drame, je l'ai effacé, je l'ai balayé, je l'ai enlevé. Mmh. Il est derrière moi.
Donc ça vous fait plaisir en fait de voir ces photos,
oui,
c'est
ouais.
bien.
Ah oui, franchement, ouais. Bon, il y a des jours où je me dis, tiens, Christophe, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Hélène, ben peut-être qu'elle serait maman maintenant, tout ça et tout. Donc tout ça, des fois j'évite, mais il y a des jours où je me sens bien et là j'aime bien les regarder.
Parmi toutes mes rencontres, Carole est peut-être la femme dont la force de vie m'aura le plus impressionné. Avec Jean-Pierre, ils sont devenus famille d'accueil et reçoivent chez eux des enfants en difficulté. 22 ans après le drame, sa détermination à aller toujours de l'avant inspire le respect.
Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'assassin de vos enfants, il ait été libéré. Mais vous ne voulez pas savoir.
Non.
Pourquoi ça?
Parce que pour moi, il a déjà fait au moins 20 ans de prison. Et donc, je me dis que c'est plus mon problème. Si la justice estime qu'il doit être dehors, et ben ma foi, la justice assumera. Et puis voilà, il sera dehors et puis qu'il fasse sa vie. Tant qu'il me laisse tranquille maintenant, c'est tout ce que je demande.
Pour vous, Jean-Pierre, c'est aussi pareil, vous ne voulez pas savoir.
Non. Puis, avec Carole, on mène notre vie, voilà, on a une vie qui est riche, et après, on ne va pas non plus se foutre une pression supplémentaire par rapport à la libération ou non de cet assassin. Après, il n'y a aucune peur, on vit, on continue à vivre, on a nos projets, la vie est devant nous.
Quelles sont les choses qui vous ont aidé à atteindre une sérénité qu'on sent chez vous aujourd'hui ?
Déjà ma vie avec Jean-Pierre. Puis quand on dit que le temps fait son œuvre, je pense vraiment que maintenant c'est vrai, que le temps a fait son œuvre. Et c'est-à-dire que maintenant je peux penser à mes enfants sans souffrir. Et aux gens qui traversent des épreuves aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, pour l'instant votre ciel, comme aujourd'hui, il est gris, il est plein de nuages. Mais pensez à demain et derrière, il y a toujours le soleil qui finit par revenir, qui finit toujours par briller.
Merci en tout cas d'avoir accepté de vous raconter tous les deux. Merci pour cet exemple quand même. Et voilà, je vous souhaite de vous porter aussi bien que je vous laisse là maintenant. Et puis nous ne serons pas sans nous recroiser.
D'accord, merci beaucoup.
Portez-vous bien, Carole.
Merci, au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio. Diffusion, Lisa Soster. Pour écouter la prochaine histoire, suivez-nous sur votre plateforme préférée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.